Donc bon, bonjour à tous, à toutes. Je suis très content d'avoir l'occasion de venir vous parler et vous présenter quelque chose dont on ne parle pas souvent dans les conférences sur le climat. On parle beaucoup du réchauffement et on raconte pas très souvent comment ça fonctionne. Donc mon but, c'est plutôt de vous expliquer comment quelque chose de particulier fonctionne, ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, j'ai marqué un processus mal nommé. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi il y a des gens qui disent mais on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais l'effet de serre, ça ne marche pas comme ça, donc l'effet de serre n'existe pas. Bon, alors, donc, commençons par le commencement. Un petit bilan d'énergie. Ce qui arrive sur la Terre du Soleil, en moyenne par unité de surface, c'est 340 watts par mètre carré, le flux d'énergie arrivant du Soleil sur la Terre. Sur ces 340, il y en a 100 qui sont réfléchis directement vers l'espace, soit par l'atmosphère, par les nuages en particulier, ou par la surface de la Terre. Et puis, le reste, les 240 restants, c'est absorbé par la Terre. Alors, dire que c'est absorbé, ça veut dire que ça va réchauffer la Terre. Ça va réchauffer la Terre, et donc, pour que la Terre ait une température stable en moyenne, il faut que la même quantité d'énergie soit réenvoyée vers l'espace. Façon d'envoyer de l'énergie vers l'espace, on n'en connaît qu'une, c'est le rayonnement électromagnétique. Donc ça va partir sous forme de rayonnement électromagnétique, en l'occurrence du rayonnement infrarouge. Et la quantité de rayonnement qui sera émise par mètre carré, elle se calcule simplement avec la loi de Stefan Boltzmann. L'énergie est proportionnelle à la puissance 4 de la température. On fait le petit calcul, il est très simple. Pour évacuer les 240 watts, il faut un corps à 255 Kelvin, à moins 18 degrés. Bon, la surface du globe, elle n'est pas à moins 18 degrés, elle est à plus 15. Un écart de 33 degrés. Et ce qui cause cet écart de température, c'est ce que globalement on appelle l'effet de serre. Voilà. Alors, l'effet de serre, comment ça a été découvert? Il faut remonter pour aller vraiment dans la compréhension du climat et l'identification de l'effet de serre, il faut remonter à Fourier dans les années 1820. Fourier qui a compris que la Terre, donc, reçoit du soleil une énergie qui n'est pas la même partout à cause de la diversité d'inclinaison des rayons selon l'endroit de la Terre. Donc la Terre est plongée dans la température du ciel planétaire, mais elle est échauffée par les rayons solaires dont l'inégale distribution produit la diversité des climats. Là, il avait bien compris ça. Tous les effets terrestres de la chaleur du soleil sont modifiés par l'interposition de l'atmosphère et la présence de l'océan. Vraiment, les deux acteurs principaux du climat, il les a identifiés. Et les grands mouvements de ces fluides rendent la distribution de température plus uniforme. Effectivement, la machine climatique diminue les contrastes entre les hautes latitudes et les basses latitudes. Et alors, il a aussi identifié un effet qui sera appelé plus tard l'effet de serre, à savoir que la température de la surface terrestre est augmentée par l'interposition de l'atmosphère parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air. La chaleur, en l'occurrence pour lui, c'est le rayonnement solaire visible proche infrarouge ou ultraviolet. Donc, la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air en étant à l'état de lumière qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. C'est comme ça qu'on appelait rayonnement infrarouge à l'époque. Donc, voilà. Il a vraiment identifié les acteurs qui sont là. Alors, l'étape suivante, la grande étape suivante, c'est le physicien irlandais John Tyndall, qui est le premier à avoir mesuré l'absorption des infrarouges par le dioxyde de carbone, par la vapeur d'eau, par les hydrocarbures, à l'aide d'un spectromètre différentiel que je ne vous présenterai pas ici. Et il a compris le rôle climatique des gaz à effet de serre, avec par exemple le fait que la perte de chaleur la nuit, c'est ce qui est responsable de la formation de la rosée quand il ne fait pas trop froid, ou de la gelée blanche quand il fait plus froid. Et il a tout à fait identifié l'importance de la vapeur d'eau, qui est le premier gaz à effet de serre naturel, le plus important, disant que cette vapeur aqueuse, c'est la couverture plus nécessaire pour la végétation, pour la vie de la végétation d'Angleterre, que les vêtements pour un homme. Si on enlève simplement une seule nuit d'été la vapeur d'eau de l'air, la vapeur d'eau qui est répandue dans l'air au-dessus de ce pays, on est certain de détruire toutes les plantes qui sont sensibles au gel. Voilà, assez clair. Hein, voilà, bon, je ne vous, vous lis pas la suite. Voilà, donc le processus est bien compris. On arrive alors à la fin du 19e siècle, en 1896, le Suédois Arrhenius, qui par ailleurs est prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les électrolytes, Arrhenius a voulu essayer d'expliquer le fait que la Terre ait pu avoir des périodes de glaciation et des périodes sans glaciation, donc passage d'un état chaud à un état froid, par l'effet de serre, et donc il a fait un calcul de ce que donnerait un doublement de la concentration de l'atmosphère en dioxyde de carbone. C'était un calcul horriblement compliqué avec les données dont il disposait à l'époque. Il dit bien qu'il n'aurait jamais fait ces calculs très, très fatigants s'il n'y avait pas eu un intérêt considérable avec eux comme la cause probable des glaciations. Et donc, une variation de la quantité d'acide carbonique, c'est comme ça qu'on appelait le dioxyde de carbone à l'époque, pourrait expliquer des variations de température globale comprises entre 5 et 10 degrés. Voilà. Donc on a vraiment un effet climatique calculé de l'effet de serre. Alors, qui ne s'appelait pas encore effet de serre à l'époque d'ailleurs. L'effet de serre, c'est un terme qui a été donné un peu plus... Arrhenius avait identifié l'effet que la chaleur était bloquée comme quelque chose qui ressemblait un peu à une serre, mais le terme d'effet de serre est vraisemblablement un terme journalistique qui a été donné dans les années qui ont suivi. Alors, maintenant, cet effet de serre, il a été contesté. En particulier, le premier qui a contesté, c'est Knut Angström. Vous avez sans doute entendu parler d'Angström, son père, dont on a donné le nom à une unité de mesure qui était 10-10 mètres. Donc, Knut, comme son père, était un grand spectrographe, fiste, oui. Et donc, il a mesuré l'absorption des infrarouges à travers un tube rempli de CO2 qui contenait la même quantité approximative de CO2 que la colonne atmosphérique, et puis un tube qui en contenait deux fois moins, un tube qui en contenait deux fois plus, et la variation d'absorption était absolument minime. Donc il a dit, c'est pas possible que l'effet de serre explique des grandes variations du climat. Alors pourquoi c'est minime? Pour une raison simple, c'est que vous voyez ici l'absorption de la lumière infrarouge, donc par le CO2. Vous voyez, le pic important c'est celui-là, vous voyez que l'absorption est absolument totale, donc si on change la concentration, on va juste avoir une petite baisse des ailes ici, qui fera une petite variation très faible de l'absorption globale des infrarouges. Bon, on verra tout à l'heure pourquoi cette expérience tout à fait correcte ne correspond pas à l'effet de serre. La deuxième contestation, elle vient d'une expérience de Wood en 1909. Il a voulu voir si effectivement une serre, ça marchait par effet de serre, comme on me l'a appris quand j'étais sur les bancs du lycée en maths sup, à savoir que le verre absorbant les infrarouges, la chaleur, donc le rayonnement ne peut pas sortir de la serre, le rayonnement infrarouge, et donc la serre chauffe. Alors Wood, il a dit, je vais faire une expérience simple, je fais une serre fermée par une plaque de verre, je remplace la plaque de verre par une plaque de sel qui est transparente aux infrarouges, et je mesure dans les deux cas la température d'équilibre de la serre, et en fait, avec les précisions de sa mesure, il ne voyait pas de différence. L'expérience a été refaite récemment avec le plus grand soin pour être sûr que la transparence au rayon incident soit bien la même. Il y a une petite différence, mais elle est très faible. Une serre, ça ne fonctionne pas par effet de serre comme on le pense. Une serre, le toit de la serre, quel qu'il soit, il bloque la fuite de chaleur par convection, simplement. Alors l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Donc ici vous avez le spectre d'absorption, en fait plutôt de transmission du rayonnement d'absorption du rayonnement du visible à l'infrarouge aux températures d'émission de la Terre, bien sûr, tel qu'il est fait par l'atmosphère. Donc vous avez la composante vapeur d'eau, la composante du dioxyde de carbone, le pic important c'est celui-ci. Vous avez l'ozone qui absorbe un peu, le méthane qui absorbe, et puis l'oxyde d'azote. Bon, je ne marque ici que les gaz qui existent à l'état naturel dans l'atmosphère. Alors, donc, si vous convertissez ça en transmission, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui, violon du soleil, arrive au sol, voilà le spectre, compte tenu des différents traits d'absorption, et voilà ce qui ressort, ce qui repart à travers l'atmosphère de ce qui est émis au niveau du sol. Cette partie-là, où la transmission est relativement importante, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de transmission de l'atmosphère, c'est le domaine de longueur d'onde qui est utilisé par les satellites, en particulier météorologiques, pour observer la surface de la Terre, les infrarouges, pour entre autres connaître la température du sol ou la température de l'atmosphère, connaître la quantité de vapeur d'eau, etc. Alors, si maintenant on compte en énergie ce qui arrive, ce qui repart, les différents processus. Vous avez donc le rayonnement solaire incident des 340 watts par mètre carré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce rayonnement solaire incident, il y en a une partie qui est directement réfléchie par les nuages ou par l'atmosphère, une partie qui est simplement diffusée par l'atmosphère, une partie qui est absorbée dans l'atmosphère, en particulier les ultraviolets dans la stratosphère. Donc vous avez tout le reste qui arrive au niveau du sol, c'est à peu près la moitié de ce qui arrive en haut de l'atmosphère, et puis il y en a une petite partie qui repart directement du sol vers l'espace. Ça, c'est dans les longueurs d'onde solaires. Maintenant, la chaleur, donc 160 watts par mètre carré sont absorbés, transformés en chaleur. Cette chaleur, il y en a une partie qui part directement dans l'atmosphère sous forme de ce qu'on appelle la chaleur sensible, c'est en fait la conduction simplement de la chaleur. Et puis, il y en a une partie beaucoup plus importante qui part sous forme de chaleur latente, c'est-à-dire évaporation d'eau, sachant que l'eau après la vapeur d'eau va se condenser quelque part dans l'atmosphère, restituant sa chaleur. Et donc on a apporté de la chaleur de la surface dans l'atmosphère. Voilà. Ça c'est une partie de ce qui va dans l'atmosphère. Le reste, c'est ce qui est émis par la surface de la Terre. Et ce qui est émis par la surface de la Terre, il y en a à peu près un dixième qui part directement dans l'espace, dans la fenêtre de transmission atmosphérique. Et le reste, c'est absorbé par l'atmosphère. C'est absorbé par l'atmosphère, mais l'atmosphère, si l'atmosphère peut absorber du rayonnement infrarouge, si des corps absorbent du rayonnement, d'après les lois de Kirchhoff, un corps qui absorbe du rayonnement est un corps qui aussi émet le même type de rayonnement. Donc l'atmosphère va émettre du rayonnement. Et elle en émet moins que ce qu'elle reçoit. Pourquoi ? Parce que la température plus basse, on retrouve la loi de Stefan Boltzmann. Voilà. Donc l'atmosphère chaude va donc émettre une partie de son, émettre du rayonnement, une partie qui va partir vers l'espace, et une partie qui retourne vers la surface. Donc le résultat, c'est qu'on a piégeage de chaleur au niveau de la surface, et puis de la chaleur qui part sous forme de rayonnement infrarouge vers l'espace. Pour que la chaleur puisse, que le rayonnement puisse partir vers l'espace, il faut que la quantité de gaz absorbant qui se trouve au-dessus du point d'émission ne soit pas suffisante pour absorber complètement ce qui est émis. Donc c'est quelque chose qui se passe à assez haute altitude. Bon, alors on peut schématiquement dire qu'on a une altitude effective d'émission que j'appelle Z2, dont maintenant vous allez voir comment ça se passe dans la figure suivante. Voilà, donc vous avez ici le système dans un état initial d'équilibre. Vous avez donc l'altitude dans l'atmosphère, la température. Vous avez ici la courbe de gradient thermique qui correspond en fait à ce que donne la convection, simplement. Voilà. Et puis donc, à une certaine altitude Z1, vous avez le rayonnement qui est émis. Donc à partir de là, il n'y a plus assez de gaz absorbant pour que le rayonnement soit complètement absorbé. Donc ce rayonnement va sortir va sortir de l'atmosphère. Donc c'est là à une température T1. Alors maintenant, si on augmente la quantité de gaz absorbant dans l'atmosphère, c'est ce qu'on fait ici, on augmente la quantité de gaz absorbant, donc le dioxyde de carbone il est complètement mélangé à l'atmosphère, très rapidement. Donc ça veut dire que si on augmente au niveau de l'émission en bas, ça va augmenter jusqu'en haut. Et donc, à l'altitude où on se trouvait, on a au-dessus de cette altitude plus de dioxyde de carbone qu'il n'en faut pour tout arrêter. Donc tout est arrêté à ce niveau-là, et donc l'altitude d'émission à laquelle ça pourra partir, elle est plus élevée. Comme l'altitude est plus élevée et que la température de l'atmosphère baisse avec l'altitude, cette courbe-là, nécessairement, l'émission se fait à plus basse intensité. Donc on émet moins de chaleur qu'on en reçoit. Donc le système se réchauffe. Alors, le système se réchauffe, il va réagir. Il va réagir comment ? Le système se réchauffe, donc la courbe de gradient de température ici se déplace. Et donc, maintenant, à l'altitude Z2, on a une température plus élevée que celle qu'on avait précédemment. Donc, quand la température ici est telle que le rayonnement qui sort est égal au rayonnement incident, le système a atteint son équilibre, et donc voilà. Donc, on a créé un réchauffement en ajoutant du gaz à effet de serre, bien que l'absorption de ce qui vient du sol soit complète. Ça, c'est quelque chose que ne savait pas, évidemment, Knut Engström dans son expérience, et c'est quelque chose qu'ignorent beaucoup de gens qui font des raisonnements pour dire que l'effet de serre, c'est pas possible, parce que l'absorption est totale. C'est important de voir que l'effet de serre, il marche parce que l'atmosphère est épaisse, et parce que la température de l'atmosphère baisse avec l'altitude. S'il n'y avait pas ces deux choses à la fois, l'effet de serre n'aurait pas d'effet de serre. Alors, donc on est retourné à l'équilibre. Et alors, le déséquilibre qu'on a créé ici, donc la différence entre l'intensité du flux entrant et l'intensité du flux sortant avant rétablissement de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Le forçage radiatif du gaz qu'on a ajouté. Cette définition est importante parce que ce que je vais vous présenter par la suite, les chiffres, on vous montre souvent des concentrations, mais les concentrations c'est gentil, mais on ne sait pas ce que ça veut dire physiquement. Le forçage radiatif, on sait. Donc, ce que je vais vous montrer par la suite, ce sera en forçage radiatif. C'est pour ça qu'il est important que vous compreniez bien ce que c'est. Alors, l'influence de la concentration des gaz à effet de serre et pourquoi la vapeur d'eau, qui est le gaz à effet de serre principal, ne joue pas le rôle de masquer complètement ce que fait le CO2, c'est pour une raison simple, c'est que la vapeur d'eau, au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère, la température diminue, la vapeur d'eau va avoir tendance à se condenser. Et donc, quand on monte dans l'atmosphère, quand on monte à 11 km, vous voyez que ce qui reste de l'absorption par la vapeur d'eau, c'est très peu de choses. À ce moment-là, c'est vraiment le CO2 qui domine. Et donc, comme l'effet de serre, c'est un processus qui est lié à la composition dans la haute atmosphère, c'est pour ça que le gaz à effet de serre important, c'est le CO2 pour l'effet de serre additionnel, et non pas la vapeur d'eau qui est le gaz important pour l'effet de serre naturel. Pour les 33 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il faut dire quelque chose des aérosols, parce que les aérosols, qu'est-ce que c'est qu'un aérosol? C'est une suspension de particules solides ou liquides dans l'atmosphère. Les aérosols, on en trouve dans beaucoup de choses. Bon, les fumées, c'est des aérosols, bien sûr. La terre qui est soulevée par les vents, c'est des aérosols. Les volcans émettent évidemment des tas d'aérosols. Alors les aérosols, ça a différents types d'effets. Il y a d'abord ce qu'on appelle les effets directs. Les effets directs, c'est simplement le fait que un aérosol, c'est plus ou moins opaque, ça réfléchit le rayonnement, qu'il soit visible ou infrarouge. Et donc, ça, c'est ce qu'on, enfin, c'est la partie importante de l'effet direct des aérosols. Et puis les aérosols, il y en a aussi certains qui absorbent le rayonnement, en particulier les aérosols de suie, les aérosols noirs, absorbent beaucoup de rayonnement, ce qui cause d'ailleurs des problèmes de stabilité locale de l'atmosphère, donc problème de dynamique de l'atmosphère. Donc ces deux choses-là, c'est donc les effets directs de l'atmosphère. Mais donc il y a des effets indirects. Alors celui-là, on pourrait dire qu'il est semi-direct, c'est-à-dire que l'aérosol chauffe localement l'atmosphère, donc perturbe la belle courbe que j'ai montrée tout à l'heure de variation de la température avec l'altitude. Donc ça va modifier la dynamique de l'atmosphère localement. Et puis surtout, les aérosols, ces petites particules, c'est ce dont la vapeur d'eau a besoin pour pouvoir se condenser. On les appelle des noyaux de condensation des nuages, c'est des toutes petites particules hygroscopiques. Et alors, quand il y a des aérosols, donc la quantité de vapeur d'eau qui va se condenser, elle ne dépend pas qu'il y ait des aérosols ou non, bien sûr. S'il y a beaucoup d'aérosols, on va avoir condensation sur beaucoup plus de noyaux, et donc la même quantité de vapeur d'eau va donner beaucoup plus de petites gouttelettes. Si on a des petites gouttelettes, on a des nuages qui sont beaucoup plus absorbants, beaucoup plus réfléchissants, beaucoup plus opaques quand les gouttelettes sont plus grosses. Et en plus, comment les nuages disparaissent, soit par évaporation, mais souvent par précipitation. Pour précipiter, c'est les gouttes d'eau qui coalescent les unes avec les autres, jusqu'à former des gouttes qui soient suffisamment grosses pour que la résistance de l'air ne puisse plus s'opposer à leur chute, à cause de leur chute par gravité. Et donc, si on a des petites gouttelettes, on augmente le temps de résidence des nuages. Et comme les nuages sont des objets réfléchissants qui ont un fort effet parasol pour protéger la Terre du rayonnement solaire incident, automatiquement, si on augmente le temps de résistance, on va diminuer le forçage radiatif. Voilà. Donc on a ces effets directs qui sont une augmentation de l'effet de serre, et puis ces effets indirects qui au contraire jouent dans l'autre sens, ou peuvent jouer dans l'autre sens, et la somme des deux forme ce qu'on appelle maintenant le forçage effectif, qui est d'ailleurs quelque chose qui numériquement n'est pas encore parfaitement connu pour les aérosols. Alors maintenant, maintenant que je vous ai un peu parlé de l'effet de serre, je voudrais faire une petite parenthèse sur un processus dans lequel l'effet de serre joue un rôle important, même si des gens, toujours des climato-sceptiques, qui ne connaissent pas bien le processus, disent que l'effet de serre n'a jamais joué pour le climat du passé. Je vais vous montrer que dans la formation des glaciations, les grandes glaciations qu'a connues la Terre, l'effet de serre joue un rôle important. Alors, les glaciations, qu'est-ce que c'est ? Vous avez ici température mesurée. Alors ça, c'est une température mesurée dans l'Antarctique, sur le site de Concordia, Domsé. Au milieu de l'Antarctique, depuis 800 000 ans jusqu'à maintenant, d'après la composition isotopique de l'oxygène dans les carottes de glace. Donc, vous avez ici donc l'évolution de la température, vous avez des périodes qui sont chaudes, qui depuis 400 000 ans, c'est en gros une tous les 100 000 ans, voilà la période actuelle, on se trouve par ici. Et puis entre des périodes chaudes qui sont d'ailleurs relativement brèves, et puis entre ces périodes chaudes, des périodes froides, éventuellement très froides, enfin nettement plus froides. Vous voyez des différences de 12 degrés sur l'Antarctique, donc 8 degrés pardon sur l'Antarctique, c'est un point important. Et alors ces périodes froides, c'est les périodes où la Terre, où l'hémisphère nord, plutôt le continent américain, continent européen, le nord de l'Europe, sont recouverts de glace. Si vous avez ici une vue par satellite du pôle nord tel qu'il est actuellement en été, le Groenland qui est glacé, de la glace ici, de la banquise sur la mer ici. Si on avait eu un satellite pour mesurer la même chose il y a 20 000 ans, on aurait eu cette chose-là. Cette chose-là, c'est, euh, C'est ici sur l'Amérique, au niveau de Boston, 3 km d'épaisseur de glace. Cette quantité de glace énorme, c'est énormément d'eau prise à l'océan, c'est le niveau de l'océan, c'est le niveau de la mer, 120 mètres plus bas qu'actuellement. C'est absolument énorme. Voilà. On connaît des choses sur ces glaciations grâce aux bulles d'air qui sont piégées dans la glace quand elles se forment, quand la neige qui s'est tassée, qui a entretenu des bulles d'air, se transforme en glace. Et donc on connaît la concentration en dioxyde de carbone, la concentration en méthane en fonction de l'époque, puisqu'il suffit de descendre dans la carotte pour remonter dans le temps. Le niveau de la mer correspondant, ça c'est un calcul qui fait appel à un peu plus d'autres données. Et voilà. Alors donc, une grande glaciation comme ça, au passage, il faut savoir que la température moyenne de la Terre, à l'époque, elle était juste 5 degrés de moins qu'actuellement. 5 degrés, ça fait cette énorme différence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour entrer en glaciation? Pour entrer en glaciation, il faut qu'il y ait quelque chose qui garde le froid. Qu'est-ce qui peut garder le froid en été? C'est les continents de l'hémisphère nord, qui normalement ne sont pas enneigés l'été. Il faut que le sol reste enneigé l'été, c'est-à-dire il faut qu'il y ait beaucoup de neige en hiver, il faut qu'il y ait des étés qui soient relativement doux. Si on a toutes ces conditions, il faut des configurations météorologiques de l'orbite de la Terre particulière pour que ça arrive, mais ça arrive, comme vous l'avez pu le voir, en gros tous les 100 000 ans. Voilà. Et donc on a un sol qui est enneigé l'été. Si le sol reste enneigé, un sol enneigé, ça réfléchit énormément la lumière, beaucoup plus qu'un sol nu. La réflexion d'un sol enneigé, c'est entre 60 et 90% de coefficient de réflexion. Alors que le sol nu, c'est en dessous de 30, et dans ces régions-là, ça va être plutôt de l'ordre de 20. Donc ça fait une différence énorme, donc on augmente la réflexion, qu'on appelle même Vedo. Si ça veut dire qu'on augmente la réflexion, ça veut dire qu'on va absorber moins de chaleur. Si on absorbe moins de chaleur, on va refroidir localement le climat. Alors, le climat se refroidit localement, ça a des conséquences. Le climat se refroidit localement, la végétation change, la taïga, la forêt boréale, elle se transforme en une végétation beaucoup plus rase qui la toundra. Et comme dès qu'il y a de la neige, vous voyez la différence de brillance, d'albédo de la surface, la taïga réfléchit beaucoup plus. Donc, on va induire un refroidissement supplémentaire. Il fait plus froid, on aura aussi plus de banquises. La banquise, 90% de coefficient de réflexion, la mer, 10% au maximum. Donc, on va avoir aussi extension de la banquise, donc extension de l'albédo, ce qui va refroidir le climat, et puis la banquise, cette glace, ça fait un couvercle qui sépare l'eau liquide de l'atmosphère. S'il n'y a pas ce couvercle, la mer transmet constamment de la chaleur à l'atmosphère, avec ce couvercle, elle ne peut plus. Donc tout ça, ça va contribuer à refroidir, et c'est encore un refroidissement régional. On ne va pas encore refroidir l'Antarctique avec ça. Alors, maintenant, comme le climat local est plus froid, on a baissé la température de la mer, la température de la mer ayant baissé, la solubilité du dioxyde de carbone a beaucoup augmenté, donc on dissout beaucoup plus de CO2 dans la mer, et en plus, ces régions boréales où se forme la glace de mer, se forme la banquise, la formation de la glace de mer qui a tendance à éjecter le sel de l'eau, donc le sel reste dans la phase liquide. Donc on va avoir une eau très dense qui va partir au fond de l'océan, qui va ensuite faire un grand périple qui dure facilement un millénaire pour faire le tour du globe. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va stocker au fond de l'océan ce surcroît de dioxyde de carbone dissous. Comme on enlève du dioxyde de carbone à l'atmosphère, on diminue l'effet de serre. Comme on diminue l'effet de serre, le dioxyde de carbone lui est très mélangé sur toute la surface du globe. Donc on va peut-être refroidir le climat globalement maintenant, et plus seulement localement.
J'ai bien compris la démonstration, je n'ai pas bien compris pourquoi le climat devient plus froid. Vous avez dit que c'est parce que la Terre se refroidit, mais Pourquoi ? Parce que vous parlez de neige qui vient, donc la neige, elle vient quand même.
Alors.
Que j'ai pas compris, excusez-moi.
Oui, oui. Pourquoi ? Alors. Bon. Là, je. Moi, je vais quand même répondre tout de suite.
Non, mais attendez.
Voilà. Alors, là, il faut rentrer dans la théorie astronomique. On n'y coupe pas. Donc, l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est une ellipse. Ce serait une ellipse parfaite si la Terre, s'il n'y avait que deux corps, le Soleil et la Terre. Mais il n'y a pas que deux corps dans le voisinage, il y a d'autres planètes. Il y en a même des très grosses comme Jupiter, qui ont aussi une attraction gravitationnelle sur la Terre. Le résultat, c'est qu'on a une déformation au cours du temps de cette ellipse. Alors cette ellipse, elle peut être plus ou moins allongée, plus ou moins circulaire, avec donc cette variation de l'excentricité, avec une périodicité avec une pseudo-périodicité principale de 100 000 ans et secondaire de 430 000. La deuxième chose, c'est que cette Terre, qui n'est pas non plus une sphère parfaite, qui tourne autour de ça, eh bien, elle va avoir son obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de son axe de rotation par au plan de l'écliptique qui va osciller, avec des périodes de 19 000 et 23 000 ans. Et puis, troisième phénomène important, c'est le phénomène de précession. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène de précession ? C'est le fait que cet axe de rotation de la Terre, il va lui-même tourner, comme vous pouvez le voir d'une toupie que vous faites tourner par terre, il va tourner, ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, la position des solstices et équinoxes sur l'ellipse va se déplacer. Voilà. Alors, donc, si on a le solstice d'été, le solstice d'été au périhélie, c'est-à-dire le plus proche du Soleil, et le solstice d'hiver le plus loin du Soleil, on va diminuer le contraste saisonnier. Si on a une inclinaison faible, on va aussi diminuer le contraste saisonnier. L'ensemble joue. Et donc, on va aboutir à une situation où on aura des hivers qui seront relativement doux et humides, donc formation de beaucoup de neige, et puis des étés qui seront relativement doux aussi. Donc voilà.
Merci, avec ces trois paramètres-là.
Voilà. Alors, je reviens là. Voilà. Voilà, donc maintenant je reviens ici, je termine ceci. Donc on a un climat global plus froid. Climat global plus froid, ça va réduire l'activité des micro-organismes. Donc réduire la production de méthane. Et puis comme il fait plus froid, l'atmosphère va aussi contenir moins de vapeur d'eau. Ça c'est les lois de Clausius-Clapeyron. Moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la vapeur d'eau est le gaz à effet de serre principal dans l'effet de serre naturel, et donc on diminue l'effet de serre, et donc on refroidit le climat global. Voilà. Donc vous avez ici à la fois l'illustration de ce que peuvent être des rétroactions qui agissent sur le climat, et de l'importance de l'effet de serre pour obtenir le refroidissement aussi important que... l'effet aussi climatique aussi important que celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 45 millions de kilomètres de glace qui sont surajoutés à ce qui existe normalement sur le Groenland et l'Antarctique. Ça fait baisser le niveau de la mer de 120 mètres. Et tout ça avec une température moyenne à la surface du globe qui n'est néanmoins que 5 degrés plus basse que la température actuelle. Ce qui veut dire qu'une différence de température de 5 degrés, climatiquement, c'est monstrueux. Voilà. Alors, maintenant, passons à l'action de l'homme sur le climat. Alors, vous avez ici l'évolution des différents gaz à effet de serre, les principaux gaz à effet de serre émis par l'homme, donc le dioxyde de carbone, en haut, le méthane, l'oxyde nitreux, ici, Et puis, tous les gaz industriels qui sont indiqués ici. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas indiqué sous forme de concentration, mais sous forme du forçage radiatif par rapport à la situation avant le début de l'ère industrielle. Forçage radiatif dû à la présence de ces gaz, donc l'évolution au cours du temps jusqu'à des années récentes. En fait, ça, c'est des courbes qui viennent du dernier rapport du GIEC, et donc c'est jusque typiquement vers 2013. Alors, vous avez ici donc le taux annuel d'accroissement du forçage relatif. Là c'est le forçage dû à chaque composante. Là, c'est leur taux annuel d'accroissement. On a la forte baisse ici du taux des gaz industriels, c'est la suite du protocole de Montréal pour l'abandon des CFC, les fréons, qui détruisent la couche d'ozone. Voilà. Et donc si vous pouvez voir donc l'ensemble des gaz émis par l'homme, voilà ici les courbes en échelle linéaire. Alors. Alors, il faut quand même dire que l'action de l'homme, là-dedans, les précautions prévues, on avait prévu à Kyoto que les émissions seraient réduites de 5,2% à la fin 2012 par rapport à 1990. On ne peut pas dire que ce soit flagrant sur ces... uniquement pour les pays autres que les pays en développement, bien sûr.
Juste une question. Comment on peut expliquer que le méthane stagne au niveau...
Alors le méthane a stagné et il repart à la hausse, malheureusement. Les dernières courbes plus récentes, ça repart comme ça. On pense que ça a stagné parce que dans la première partie du 21e siècle, la Russie a fait de gros efforts pour réduire les fuites de méthane sur ses gazoducs et autres installations. On pense que c'est... On n'est pas sûr, mais c'est une explication assez souvent entendue.
Et l'augmentation des bovins et des gaz émis par les bovins, en particulier du méthane,
alors,
sont pas très importants.
Alors l'augmentation, évidemment, contribue à l'ensemble. Il faut penser aussi aux cultures de riz, qui sont des rizières, sont des gros émetteurs de méthane. Les zones humides, toutes les zones humides, en fait, le méthane, il est émis dans les fermentations anaérobies, donc tout ce qui fermente sous l'eau.
Mais il s'accumule, le méthane, ou il finit par...
Alors le méthane, il va s'oxyder lentement. On considère qu'il reste une bonne dizaine d'années dans l'atmosphère avant d'être oxydé. Sachant que cette valeur, une bonne dizaine d'années, ça dépend aussi d'autres gaz qu'on met dans l'atmosphère. Parce que si on émet beaucoup de monoxyde de carbone, le méthane est oxydé par des radicaux libres qui sont des radicaux OH, radicaux très oxydants, et les radicaux OH sont eux détruits par le monoxyde de carbone. Donc si on émet beaucoup de monoxyde de carbone, on allonge le temps de résidence du méthane. Alors, le forçage radioactif... compte tenu de toutes les réactions de tout ce qui peut arriver au gaz ou causé par le gaz au cours de son devenir. Donc vous avez ici le forçage radiatif des différents composés et compte tenu de leur descendance. Vous voyez que le dioxyde de carbone arrive clairement en tête. Voilà. Vous voyez que les aérosols ont fort heureusement un effet négatif pour l'instant, ce qui limite le réchauffement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que les aérosols aient un effet négatif, parce que les aérosols, c'est aussi souvent de la pollution. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous voyez que tous les gens qui disent et le soleil, c'est le soleil qui est la cause, le soleil, c'est vraiment... rien. Voilà. Alors l'évolution des forçages maintenant, l'accumuler depuis 1750. Donc vous voyez le forçage dû au dioxyde de carbone, le forçage dû aux autres gaz à effet de serre qui peuvent être bien mélangés dans l'atmosphère, contrairement à la vapeur d'eau qui, elle, n'est pas bien mélangée. Vous avez l'ozone dans la troposphère. L'ozone, il résulte il n'est pas émis directement, il résulte de processus chimiques, mais en particulier avec les oxydes d'azote. Vous avez de la vapeur d'eau qui s'accumule dans la stratosphère, quand même, un peu, qui joue un rôle qui n'est pas négligeable. Un rôle important dans le forçage, c'est les aérosols de suie. Les aérosols, ces nuages de particules peuvent faire des trajets considérables. Ils s'en accumulent beaucoup sur les régions polaires. On en trouve beaucoup sur le Groenland. Quand on met de la suie, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la réflectibilité de la surface, donc on absorbe davantage la chaleur et donc on augmente le forçage. Et puis là-dessus, vous voyez le Soleil avec son cycle de 11 ans. Bon, par rapport à l'ensemble, effectivement, c'est pas grand-chose. Alors, dans les négatifs, vous avez les aérosols, vous avez éventuellement l'usage des sols, vous avez l'oxygène stratosphérique qui absorbe une partie du rayonnement incident, et puis un phénomène très important qui est les volcans. Alors on a un pic négatif à chaque fois qu'on a une grosse éruption volcanique, puisque les volcans émettent des aérosols. Les aérosols dont il est question ici, c'est ceux émis par l'homme. Ça c'est un aérosol naturel. Quand il y a une éruption comme le Pinatubo, ça produit un refroidissement d'environ 1,5 degré pendant à peu près 2 ans. C'est un phénomène important. Effet refroidissant des aérosols, alors cette courbe qui est aussi une courbe du rapport du GIEC de 2013, vous avez donc ici la densité de probabilité d'un effet atteint, du forçage des gaz à effet de serre, des aérosols et donc émis par l'homme et donc le total. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la densité de probabilité, la fonction de densité de probabilité, c'est l'intégrale de la courbe entre deux valeurs données. Donc la surface sous la courbe entre ces deux valeurs, c'est la probabilité que la grandeur à laquelle on s'intéresse et sa valeur dans cet intervalle-là. Voilà. Donc ceci illustre bien que les aérosols, la probabilité qu'ils aient un effet positif est très faible, la probabilité qu'ils aient un effet négatif est très grand. Et le résultat sur le total anthropogénique, c'est heureusement, finalement, probabilité de refroidissement moindre que s'il n'y avait que les gaz à effet de serre. Alors, donc, conclusion, le forçage naturel, j'ai pas insisté sur tous les termes sur la grande charte des forçages, mais le forçage naturel reste petit devant le forçage anthropique. Il y a un fort effet refroidissant des aérosols. Il y a une incertitude majeure sur le couple aérosol-nuage, mais c'est un terme qui est, comme on vient de le voir sur la figure précédente, qui est petit par rapport, nettement plus petit que les gaz à effet de serre. Et puis, quelque chose qui n'est pas très très, très rassurant, c'est que les émissions de CO2 augmentent, ça on le sait, mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que voilà, l'évolution des émissions de CO2 par le charbon, par le pétrole, par le gaz, ça doit être les autres non, ça c'est la production du ciment, et donc vous avez ici la courbe totale. la fabrication du ciment produit beaucoup, pas mal de CO2. Ce que vous voyez, ce qui est tout à fait désolant, c'est qu'à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle source d'énergie par combustible fossile, qu'on a commencé à utiliser un nouveau combustible fossile, on ne l'a pas fait pour remplacer les anciens, mais on a ajouté. Et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre de gens, dont moi, sont assez hostiles au fait qu'on aille chercher le gaz de schiste, parce que c'est une source de plus. Et donc on risque de rajouter encore quelque chose par-dessus. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment, vous avez peut-être des tas de questions sur ce que je vous dis, j'ai dit, ou sur ce que je ne vous ai pas dit. Donc,
Oui, Jean. Gaz, pétrole, charbon, c'est essentiellement utilisé pour produire de l'énergie utile à l'homme.
Voilà, tout à fait, oui.
Et tu dis, avec justesse, à chaque fois qu'on a trouvé, le pétrole n'a pas remplacé le charbon, et le gaz n'a pas remplacé ni le pétrole, ni le charbon.
On a utilisé plus d'énergie.
Absolument. Donc, il y a quand même... En France, presque seulement en France, pas tout à fait, une source d'énergie qui a remplacé finalement le charbon, le pétrole et le gaz, qui est quand même le nucléaire.
Tout à fait.
Donc on peut peut-être espérer, si on développe le nucléaire, comme le dit le GIEC dans son dernier rapport, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être multiplier par 5 le nombre de centrales nucléaires dans le monde, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai lu un peu vite, tu rectifies, c'est pas vrai.
On peut
espérer finalement que ça remplace les émissions du charbon, du gaz et du pétrole. Voilà.
C'est bien un peu le but de l'opération. Le but de ces scénarios que présente le GIEC, c'est bien de remplacer pour la production d'énergie tout ce qui est combustible fossile, tout ce qui est combustible émetteur de carbone par quelque chose qui n'émet pas de carbone. Et dans ce domaine, toute énergie décarbonée est à considérer pour être utilisée à l'endroit où il est favorable qu'on l'utilise.
À condition que l'énergie décarbonée remplace une énergie carbonée et ne remplace pas une autre énergie décarbonée.
Absolument, oui, tout à fait.
Tu vois ce que je veux
dire? Tout à fait, bien sûr. Ça. Si on veut remplacer pour expliciter ce que tu dis, si on veut remplacer du nucléaire qui n'émet pas de carbone par une autre énergie qui n'émet pas de carbone, on n'émettra pas plus de carbone, mais on n'émettra pas moins. Alors, si l'autre énergie, si on pouvait l'avoir, c'était l'hydraulique, ça ne poserait pas de problème. Si c'est une énergie qui nécessite un backup parce qu'elle est intermittente, comme on ne sait pas stocker l'énergie en quantité après importante, il faut autre chose, et là ça pose un vrai problème. Bon, les gens du fond de la salle, ils ont sûrement des tas de questions. Les gens qui se sont mis au fond de la salle parce qu'ils ont de bonnes oreilles.
Mais le CO2, c'est un déchet.
Non ? C'est fantastique, ils ont tout compris. J'y crois pas. Oui.
Est-ce qu'on a à l'heure actuelle des modèles de prévision du climat qui soient fiables?
Qui soient fiables. Qu'est-ce qu'on appelle fiable? Voilà, c'est ça la grande question.
Est-ce qu'on est capable de mesurer la température de la Terre de façon fiable?
Ah ça oui. Ça tout à fait. La température de la Terre actuellement, on la mesure, je dirais, de l'ordre de 0,2 degrés près. Avec tous les systèmes météorologiques qui sont là pour ça, la météo a besoin de ces mesures précises, donc tant qu'elle les fait, c'est clair. Et grâce aux satellites, on a une couverture gigantesque, quoi. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle fiable? Le modèle, c'est pas parfait, ça c'est clair. Donc, il faut savoir ce qu'on demande au modèle et savoir s'il est capable de répondre aux questions qu'on demande. Voilà. Alors, Un modèle, bon, il faut déjà de savoir qu'un modèle de météorologie ou un modèle de climat, c'est en gros la même base, sauf que le modèle de météorologie, il est beaucoup plus précis au point de vue maille, au point de vue résolution spatiale et en altitude, parce que on fait des calculs sur des durées de temps calculées relativement courtes, et donc on peut se permettre d'avoir une grande précision qu'on ne peut pas avoir avec les modèles de climat, parce qu'il faut qu'on fasse des simulations qui représentent des périodes de millénaires. Et donc on est obligé d'avoir une résolution nettement plus mauvaise. Donc ça c'est un premier problème. Un deuxième problème, alors une deuxième différence importante, c'est que les modèles météorologiques qui s'intéressent au court terme, évidemment, ne considèrent que les phénomènes qui sont dans la bonne échelle de temps. Le climat, il s'intéresse à ce qui va, à des phénomènes rapides, les mêmes, que la météo, mais il s'intéresse aussi aux phénomènes lents, qu'il faut rajouter. Donc tout ça rajoute effectivement des besoins de calcul qui font qu'on est obligé de se limiter. Comme on se limite en résolution, mais qu'on considère des phénomènes qui se produisent à des échelles spatiales petites, on est bien obligé de les considérer aussi, donc on est obligé de les représenter de façon approximative. Bon. Moyennant quoi, on sait que les modèles de climat ne peuvent pas être parfaits. Alors, les modèles de climat, qu'est-ce qu'on leur demande? On ne leur demande pas de prévoir le temps qu'il fera ici, le 25 juillet de 2053. Ça, c'est pas du climat, c'est de la météo. Le climat, on lui demande de prédire quelle est la distribution de temps qu'on pourra avoir ici, typiquement par exemple au mois d'octobre, vers les années de 2050-2060. Et ça c'est quelque chose qui est un problème beaucoup, beaucoup plus simple. Donc on n'a pas besoin de la même précision, et ça on le fait assez bien. On le fait de façon fiable, robuste, c'est-à-dire qu'on vérifie en modifiant un certain nombre d'hypothèses que c'est très robuste en ce qui concerne les températures. Ça l'est sensiblement moins en ce qui concerne les précipitations, parce qu'on a des problèmes pour les décrire correctement, à cause des difficultés qu'on a pour savoir exactement ce que vont devenir les nuages. Donc il y a des choses dont on est sûr, des choses dont on est raisonnablement sûr, et des choses dont qui ont des chances de se passer comme ça, et dont on ne cache pas que on pense que ça pourra se passer comme ça, mais que ça pourra aussi être différencié. Si vous lisez les rapports du GIEC, pour chaque résultat qu'ils donnent, ils indiquent le type de confiance qu'on peut avoir dans le résultat. Voilà. Donc, alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on appelle fiable? C'est fiable dans la mesure où on croit à l'indice de confiance qu'ils donnent. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question à peu près ou...
On a déjà développé des modèles qui ont eu une validité technique, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était capable de faire un modèle pour le climat.
Alors, l'évolution du climat, je ne parle pas au jour le jour, je ne parle pas d'une année précise, je parle de la période. L'évolution du climat qu'on a actuellement, c'est celle qui était prévue par les modèles de la fin des années 80. Voilà. Et pourtant, à l'époque, les modèles étaient beaucoup moins élaborés que maintenant. Beaucoup, beaucoup moins.
Vous parlez du climat. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des climats?
Alors,
ils vont tous évoluer dans la même direction?
Ah ben, bien sûr que non. Non, alors ça, ce serait trop simple. Ça, ce serait trop simple. Bon, ça c'est une autre présentation. Le jour où vous me demanderez de faire une présentation sur le réchauffement climatique, ce n'est pas cette présentation-là que je ferai, bien évidemment. Et là, vous verrez que, comme l'avait d'ailleurs déjà prédit Arrhenius en 1896, les hautes latitudes se réchauffent beaucoup plus vite que les basses. Les régions polaires, en particulier le pôle Nord. L'Antarctique, c'est plus difficile parce que c'est un système un peu bloqué, puisque c'est un continent entouré d'eau. C'est un peu spécial, mais le réchauffement dans l'hémisphère nord. Ben écoutez, je vais vous montrer quelque chose, ça, pour répondre à votre question. Alors, il faut que je sorte de là. La petite souris. On va sortir de celui-là. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci, voilà. si ça fait bien marcher, ça marche souvent. Est-ce que je peux l'arrêter? Je vais l'arrêter pour leur démarrer gentiment. Voilà, voilà. On va recommencer au début. Voilà. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est l'évolution de la température. L'évolution locale de température, je dis bien locale, depuis 1880. Donc, ce qui est porté par les couleurs, c'est l'écart en température. Vous avez l'échelle de température sur la gauche là-bas. C'est l'écart en température localement à l'endroit que vous voyez par rapport à la température moyenne sur la période 1950-1980. Donc là, on est en 1880-1884, et vous allez voir, ça va défiler jusqu'en 2013 ou 14, je ne sais plus. Je vais lancer la chose, et vous allez voir donc comment la température évolue à la surface du globe et de façon très différenciée selon l'endroit. Voilà, là on est dans les années 1890-1900 maintenant. Voilà, pour l'instant, on est nettement plus froid que dans les années 50-80. Maintenant, ça commence. On a un premier réchauffement. Vous voyez qu'il est important dans les hautes latitudes du nord. Bon, après, on a une période relativement froide dans les années 50. Et puis, ça va commencer à se re-réchauffer. Alors là, maintenant, on est dans les années 80-90. Vous voyez qu'on réchauffe énormément le nord. Beaucoup moins le sud. On réchauffe beaucoup plus les continents que les océans. Voilà, vous voyez que l'évolution des climats est très différente d'un endroit à l'autre. Pour être plus local, l'évolution du climat autour de la Méditerranée, on se dirige vers une aridification certaine. L'évolution du climat dans le reste de la France, c'est plutôt des étés plus secs et des hivers nettement plus humides.
Voilà. Géopolitiquement, il y a peut-être des pays qui ont intérêt au réchauffement. Je suis canadien, j'habite en Sibérie.
Je ne suis pas un spécialiste des sols. Il faut se méfier parce que la Sibérie, c'est sur une grande partie, c'est une région très humide. Si vous remplacez de la glace par du marécage, je ne sais pas si c'est aussi bon qu'on veut parfois le dire. Oui, bien sûr, le réchauffement n'a pas que des inconvénients, ça c'est clair. Il faut surtout pas s'imaginer que parce que c'est plus chaud, ça va plus mal pour tout le monde, ça c'est pas vrai.
Il y aura des gagnants et des perdants.
Il y aura des gagnants et des perdants.
Mais... Oui, d'où la difficulté d'avoir une unité de politique au niveau mondial.
D'où la difficulté. Ceci dit, bon, un des premiers effets tout à fait... important et néfaste du réchauffement, c'est la montée du niveau de la mer. La montée du niveau de la mer, actuellement, on pense qu'elle pourrait être de 70 cm à la fin du siècle. 70 cm, ça paraît pas grand-chose, mais alors il faut se méfier parce que la mer, c'est pas un beau miroir bien plan qui se lève comme ça partout. La mer, c'est plein de courants, c'est agité par les vents. Il y a des régions... Les petites îles du Pacifique, si elles crient très fort, c'est parce qu'elles sont dans une des régions où l'eau monte beaucoup, beaucoup plus vite qu'ailleurs, à cause des courants qui apportent l'eau chaude, l'eau plus chaude à cet endroit-là, puisque la montée du niveau, c'est à la fois la dilatation thermique et l'apport d'eau par la fonte des glaciers.
Et la montée de l'eau de la mer à ces niveaux-là, ça ne va pas changer le régime des marées? L'effet dynamique des marées ne va pas être perturbé?
Alors je peux vous répondre au sentiment, mais j'avoue que je suis pas très qualifié pour vous répondre. La marée, c'est un phénomène. Vous parlez des marées, la marée, c'est un phénomène global. Hein, c'est l'ensemble de l'eau océanique qui, en gros, comme on me l'a expliqué un jour à Rennes, c'est en gros l'eau du plus grand bassin océanique mondial qui est le Pacifique, qui est entraîné par le mouvement de la Lune, le mouvement apparent de la Lune par rapport à la Terre, dans ce grand déplacement, ce qui explique par exemple que si on dit à des gens de Saint-Malo que
que c'est la Lune qui crée les marées, ben, ils sont surpris de voir que la marée elle est haute quand la Lune n'est pas là. Parce que c'est le mouvement d'ensemble de la mer qui compte et non pas le mouvement local.
C'est une réponse à l'excitation vibratoire, finalement.
Oui,
bien sûr.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans un système avec des conditions limites qui sont assez chahutées et qui varient beaucoup d'un endroit à l'autre.
Et l'influence du Gulf Stream.
L'influence du Gulf Stream. Alors. Non, là, j'ai pas le transparent pour reparler de la circulation dont j'ai parlé tout à l'heure, la circulation profonde. Le Gulf Stream, ce que les océanographes appellent le Gulf Stream, c'est pas ce que les médias appellent le Gulf Stream, ce que les océanographes appellent le Gulf Stream, c'est le courant du Golfe du Mexique, hein, qui en fait, hein, c'est un courant qui est causé d'une part par les alizés qui amènent l'eau depuis l'Afrique vers le continent américain. L'eau arrivant sur le continent américain bute et doit donc aller ailleurs. À cause de la force de Coriolis, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le golfe du Gulf Stream, et puis elle va gentiment retraverser l'Atlantique et poussée d'ailleurs un peu par les vents de sud-ouest qui viennent de la côte d'Amérique, et puis ça va gentiment rediffuser, se reboucler pour combler le vide créé par le départ initial, bien sûr. Et puis il y a une branche de cette eau que les océanographes appellent la dérive nord-atlantique qui part vers le nord de l'Atlantique. Et quand elle arrive, si vous regardez une carte des courants de surface, elle part vers le nord de l'Atlantique et puis elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas. Pour qu'elle en revienne, il faut la circulation profonde. La circulation profonde qui fait donc plonger l'eau, et l'eau très dense qui plonge, évidemment, ça crée une aspiration qui fait monter l'eau du Gulf Stream. Si on fait baisser cette formation de glace de mer qui crée ce courant, si on fait baisser cette circulation, cette création de glace de mer, ou plutôt cette formation d'eau dense, c'est pire, c'est plus compliqué que ça. Si on fait baisser la formation d'eau dense, ben, automatiquement, on va diminuer la pompe qui attire l'eau du Gulf Stream. Et donc, on va diminuer l'apport de chaleur par cette eau dans tout l'Atlantique Nord. Alors, pour diminuer cette pompe, il faut que l'eau devienne moins dense. Il y a deux façons. Ou bien il se forme moins de glace parce qu'il fait plus chaud. Ou bien on a fait fondre beaucoup de glace, par exemple sur le Groenland. Et donc, on a adouci l'eau. Et comme l'eau est plus douce, elle est moins dense. Et donc elle pêche pas. Voilà. Alors ça c'est quelque chose, auquel qu'on estime possible depuis je sais pas, une vingtaine d'années. On n'y croyait pas trop, on a tendance à croire davantage que c'est effectivement possible. Est-ce que tu veux parler plus fort parce que j'ai...
L'activité humaine.
Ah, alors, les prochaines glaciations, j'ai montré tout à l'heure donc les bases de la théorie astronomique. Si on regarde les conditions nécessaires pour qu'il se forme une nouvelle glaciation, actuellement, elles ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies et on pense qu'elles ne seront pas réunies avant, indépendamment de l'action de l'homme, avant au moins, typiquement, 50 000 ans. C'est-à-dire qu'on... On va avoir un épisode chaud plus long que la moyenne, mais il y avait déjà eu quelque chose du même genre pour les mêmes raisons astronomiques il y a 400 000 ans. Alors, ce que les gens disent, les gens qui se spécialisent plutôt dans ce genre d'études, c'est que du fait de l'accumulation des gaz à effet de serre, on réchauffe la Terre et on la c'est le réchauffement qu'on inflige à la Terre, il ne va pas cesser tout de suite. C'est un processus géologique lent. On risque de louper aussi la glaciation dans 50 000 ans. Donc à ce moment-là, ça pourrait revenir 10 ou 20 000 ans plus tard. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus pour limiter le réchauffement. Oui. Alors, Ça c'est une question qui intéresse beaucoup les climatologues. Des points de bascule, il y en a beaucoup. Quand on fait fondre la glace, on sait qu'elle met très longtemps à se reformer. Donc dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière, ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière à l'échelle d'une génération. La nature, elle se moque bien de nous, on lui fait subir des petites choses qui nous dérangent beaucoup, mais qui elle la dérange pas beaucoup. Un jour, ça reviendra en arrière, bien sûr, mais à l'échelle d'une génération, non. Et alors, l'exemple de la fonte de la glace, c'est vraiment un de ces exemples typiques de processus pour lequel il y a effectivement un point de bascule, quoi. Le changement du comportement local du climat avec ou sans glace, c'est énorme, ne serait-ce qu'à cause de l'effet d'albédo, de l'effet de réflexion de la lumière solaire.
Oui, on a vu que les aérosols avaient comme conséquence de refroidir la Terre.
Oui.
On sait même qu'il y a quelques cinglés qui veulent rejeter des aérosols dans l'atmosphère pour compenser l'augmentation de la température. Je crois qu'on avait assisté tous les deux à une conférence sur ce sujet à l'université d'été.
Oui, j'en ai assisté à une autre ailleurs. Oui.
Voilà. Et donc, est-ce que tu as entendu d'autres sons de cloche depuis, et qu'est-ce qu'il en est de cette histoire?
Les sons de cloche sont relativement simples. On sait injecter dans la stratosphère des quantités de soufre suffisantes pour limiter le réchauffement climatique. Pas de problème, c'est quelque chose dont on est à peu près sûr que ça va marcher.
Et même les quantités de soufre sont
raisonnables. Les quantités de soufre sont raisonnables. Les transporteurs aériens sont capables de faire ça.
Ils seront même bien contents.
Ça, on sait faire. Maintenant il faut voir deux choses. On injecte du soufre dans l'atmosphère. Ce soufre, il ne va pas y rester indéfiniment. Le jour où il retombe, l'acidité, c'est...
C'est nous qui souffrons.
L'acidité, c'est pas mal. La deuxième chose, c'est qu'on se lance dans un processus qui est très efficace pour limiter le réchauffement. On n'imite pas pour autant les gaz à effet de serre, bien sûr. Bon, supposons que pour une raison quelconque, on soit obligé d'interrompre ce processus. Alors là, le système est très efficace. Il regagne de façon quasi instantanée tout ce qu'il n'a pas eu comme réchauffement pendant tout le temps où on a injecté le soufre dans la stratosphère. Et donc là, on a un réchauffement absolument monstrueux au point de vue amplitude. C'est le réchauffement qu'on aurait eu sans le soufre, mais avec une vitesse absolument monstrueuse. Donc ça c'est vraiment très 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 dangereux.
Ok.
Oui, ça va.
Oui, bon. Il y en a deux.
Plus fort.
C'est quoi les solutions là? Nous avons reçu à Sauvons le Climat il y a quelques jours un mail de quelqu'un qui nous dit que le rapport du GIEC, ça le désole parce que lui il a la solution et la solution c'est arrêter tout de suite l'utilisation du charbon et du pétrole. Il n'y a pas dit le gaz, du coup j'ai répondu en demandant pourquoi il ne mettait pas le gaz, il n'a pas répondu. Effectivement, il faut arrêter rapidement l'utilisation de tous ces combustibles fossiles. Maintenant, un scénario raisonnable pour le faire, et mondial, bien sûr. Bon, c'est ce qu'essaye de faire le GIEC, et c'est là qu'intervient, par exemple, la multiplication du recours à l'énergie nucléaire, là où c'est possible.
Est-ce que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris a accéléré les choses ou pas?
Est-ce que l'accord de Paris a apporté quelque chose?
L'accord de Paris a apporté un espoir. Oui, oui, j'ai bien entendu la question. Là. Alors,
mais il en reste encore
les, d'une part, aux États-Unis, il y a pas mal de villes, voire d'États, qui ont décidé que le retrait déclaré par Trump, il s'en moquait, il continuait à appliquer ce qui était prévu au point de vue des croissances du CO2. Donc ça, c'est pas important. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, c'est un très mauvais exemple. Et je pense que les Australiens sont ravis de le suivre. ce qui est très mauvais. pour faire de l'hydrogène en émettant du CO2, par exemple. Oui.
Ils sont retirés, les Australiens ?
Je sais pas s'ils sont retirés, mais ils suppriment les crédits. Pour réduire les émissions, donc c'est comme s'ils se retiraient.
Ouais.
Bon.
Est-ce qu'à notre échelle, il y aurait des solutions ?
Des solutions à notre
échelle ? Des choses qui pourraient limiter à notre échelle d'un groupe d'humains, d'un petit groupe de climatiques ?
Alors là. C'est la question classique. On est un petit pays, on n'est pas beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'il faut rien faire? À mon avis, c'est jamais mal de montrer le bon exemple. Donc il faut faire quelque chose. Chacun va pas réussir à faire grand chose, mais bon, c'est l'histoire classique du colibri qui agit quand il y a un incendie de forêt, quoi. Tous les animaux sont mobilisés pour apporter de l'eau pour éteindre l'incendie. Ben le colibri, il arrive avec sa petite goutte d'eau et puis jette sa petite goutte d'eau. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Il dit, moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Voilà. Donc, jouons au colibri.
On a un bulletin de vote aussi.
Pardon ?
On a un bulletin de vote aussi.
On a un bulletin de vote.
À notre échelle, on peut faire ça.
On a un bulletin de vote, encore faudrait-il qu'il y ait parmi les candidats politiques des gens qui proposent des choses réalistes. Ce qui est autre chose.
Si je capte le CO2, est-ce que
c'est
envisageable ?
Séquestrer le CO2. Alors, séquestrer le CO2, ça pose typiquement deux types de problèmes. Pour le séquestrer, il faut d'abord le capturer. Ça coûte cher financièrement et en énergie. Donc si on veut capturer le CO2 qu'on produit en produisant de l'énergie, il faut produire plus d'énergie. Donc on peut faire, mais ça coûte cher. Ça coûte cher donc aussi bien financièrement qu'en énergie. Puis la deuxième chose, c'est que une fois qu'on l'a capturé, il faut le stocker. Actuellement les quantités qu'on a montré qu'on savait stocker, c'est combien, 3 ordres de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc technologiquement on n'est pas mûr. Voilà. Si on pouvait le faire.
Je crois qu'à l'AC ils avaient proposé de faire du stockage et que tous les gens autour avaient dit
l'aspect sociétal, ça c'est autre chose.
Oui,
changer quelque chose quelque part, c'est très difficile.
Ouais, mais ça marche que pour les installations fixes, ça veut tout ce qui est transport et particulier.
Puis je reviens à quelques questions auparavant sur ce qu'il faut faire.
Oui.
Jean Covici qui a fait la relation directe entre l'énergie et la croissance depuis la fin du 18e siècle, dit qu'il faut plus jouer avec la croissance, et la croissance n'est plus du tout quelque chose de réaliste. Alors ça change complètement la conception économique de notre société. Hein.
Eux, ils espèrent croire.
Mais eux, ils n'ont pas aussi non plus les quantités d'énergie comme on en a. Hein.
Ouais.
Non, mais Jean Covici, il fait partie de ces gens qui adorent la célèbre équation de Kaya, que moi, je lis toujours dans le sens. Pour moi, c'est l'équation d'Iaka, et que je trouve être une façon très compliquée d'écrire que 1 égale 1. Mais bon.
Ah, il dit pas ça, hein.
Non, mais il n'ose pas le dire.
Je reviens sur la question des modèles.
Oui.
Pour
la météo, oui. Oui, oui, on fait. Il y a 5 ans, je vous aurais dit non, maintenant je dis oui. Oui, maintenant on essaye de faire des modèles pour prolonger la météorologie vers des échéances beaucoup plus longues que les 6 mois qu'on faisait récemment. On essaye de voir sur la décennie, voir plus loin. Quoi. C'est en cours, mais bon. Si on avait des moyens de calcul quelques ordres de grandeur supérieurs à ce qu'on a actuellement, on pourrait faire beaucoup
donc
plus, bien sûr.
Donc une interquantique, qui ne va pas tarder à arriver.
Oui, demain matin, oui. Enfin,
optimiste. Hein.
Oui, non mais quoi. Il sera prêt pour la séquestration du CO2.
C'est la place de la recherche en France dans
la recherche des modèles. Oui. Pardon ?
La place de la France.
Alors en France, on a... Bon, si on prend ce qu'a fait présenter le GIEC, ils doivent avoir 32 modèles différents. Sur les 32, il y en a 2 qui sont français. Par rapport à la place de la France sur l'échiquier mondial, c'est énorme. La France a un rôle important dans les sciences du climat. Il y a de la place pour des jeunes là-dedans, beaucoup.
Oui,
Gilbert.
Ah. Oui.
À quelle concentration de CO2 on a un phénomène de saturation de l'effet de serre. Pour lui, c'est 400 ppm ou à peu près.
Saturation de l'effet de serre, on n'a pas de. Pourquoi il n'y aurait plus d'effet ? Je vois pas pourquoi.
Le maximum, c'est quand tout ce qui est fossile, ça partit dans l'atmosphère.
Ah ben ça, c'est autre chose. C'est la limite.
Parce que ça existait dans le passé.
Oui.
Cette situation.
Ah oui, mais alors. Dans le passé, il y avait aussi une période où il y avait peu ou pas de carbonate sur Terre, et donc on a fait des concentrations de CO2 qui étaient 10 fois plus grandes qu'actuellement. Ce qu'il y a, c'est que avant qu'on atteigne ce genre de concentration, on risque de plus être tellement vivant, parce que le CO2, ce que beaucoup de gens ignorent, le CO2 c'est toxique. Le CO2 à forte concentration, c'est toxique. L'organisme, ça dépend de la concentration. Notre organisme, dans le sang, il gère avec énormément de précision la concentration de deux gaz. Dans ce sang, c'est l'oxygène et le CO2. Si la concentration de CO2 devient trop forte, il accélère brutalement le cœur pour essayer de favoriser l'évacuation du CO2.
C'est l'excès de CO2, c'est le déficit d'oxygène.
L'excès de CO2. Déficit d'oxygène, avant d'y arriver, on a de la marge.
Parce que dans les caves de Bourgogne, voilà. Là où il y a du CO2 en pagaille,
on dit
tous que c'est le déficit d'oxygène qui provoque l'anorexie.
Il y a des morts chaque année d'ailleurs.
Comment ?
Et il y a des morts chaque année dans les caves de Bourgogne.
Des morts.
Ah oui.
Non, c'est l'excès de CO2.
Des morts de Bourgogne.
C'est l'excès de CO2. C'est l'excès de CO2. Le cœur ne résiste pas.
Quels sont les effets des terres rares sur le climat ?
L'effet des terres rares ?
Oui.
Les terres rares, elles sont pas à l'état gazeux, généralement.
Elles sont rares.
Bon, elles sont rares en plus, mais non, les terres rares n'ont pas d'effet sur le climat. Les terres rares ont un gros effet sur la technologie pour essayer de lutter contre le réchauffement. Ça, c'est autre chose, mais...
Les terres rares vont permettre d'améliorer les batteries.
Ouais.
Donc la création des batteries, c'est...
Oui, mais alors, Là, sur les batteries, il se trouve que nous avions à Sauvons Climat notre université d'été il y a un mois. Dans notre université d'été, on nous a appris que les batteries, c'est très bien, mais si on veut avoir toutes les voitures électriques, on n'aura jamais assez de cobalt. Donc avoir toutes les batteries qu'il faut, c'est pas évident. Oui. Alors, quelle courbe?
Attendez là.
Celle-ci, oui.
Oui.
Les valeurs qui sont dans le négatif, elles ont un effet positif ou négatif?
Ah, les valeurs négatives, c'est ce qui a un effet négatif, puisque c'est en forçage. Hein. Donc, encore une fois, c'est en forçage. Donc, un forçage négatif, ça veut dire un effet refroidissant.
Mm-hmm. Oui, il y a eu une grosse éruption volcanique.
Oui. Ah, l'éruption du Tambora en 1815, c'est une des éruptions monstrueuses, celle qui a causé l'année suivante une année sans été. Trop froid, à cause de la couverture d'aérosol.
Il faut bien comparer les parties négatives avec la partie positive du dessus pour voir l'équilibre de la température, non?
Pardon?
Dans les deux courbes que vous présentez.
Oui.
Quand on trace une année, je veux dire, on voit la partie positive, on voit la partie négative.
Donc oui.
La résultante,
c'est le trait noir.
Pardon? Ah, c'est le trait noir.
La résultante, c'est le trait noir.
Ok, merci.
Bon.
Oui. Tu as une autre question? Plus fort?
Vous avez parlé de multiplier les centrales nucléaires en France et dans le monde.
Oui.
Est-ce que le nucléaire représente un danger autre que le risque climatique pour les générations?
Alors, le nucléaire mis entre des mains de gens qui ne font pas attention, ça fait des choses qui s'appellent Tchernobyl.
Le micro.
Oui, le nucléaire mis entre les mains de gens qui sont pas qui n'ont pas les compétences pour l'utiliser comme on doit utiliser le nucléaire, c'est-à-dire une bonne connaissance du fonctionnement, bonne connaissance de ce qui est possible, de ce qui est pas possible, bonne connaissance et bon respect de toutes les normes de sécurité, ça peut être très dangereux, c'est Tchernobyl. Le nucléaire bien utilisé, Fukushima, c'est pas un problème de nucléaire, c'est un problème de choix du site
On s'est quand même royalement massacré au XXe siècle avec de l'énergie classique. Hein.
Ah ben tout à fait.
Avec la Chine classique.
La dernière guerre, c'était aux machettes, celle qu'a fait.
Ouais, ça c'est pas. Le nucléaire, en tout cas, puisque vous parlez guerre, le nucléaire électrique, électrogène, le combustible électrogène n'est pas adapté à faire des bombes. Il faut faire beaucoup de choses avec avant d'arriver à avoir un produit suffisamment pur pour faire une bombe.
Mais les morts par l'utilisation de l'énergie classique sont bien plus nombreux au XXe siècle.
Le nucléaire, c'est quand même actuellement l'énergie qui a fait le nucléaire civil, s'entend, c'est l'énergie qui a fait le moins de morts par térawattheure. Même le militaire, je crois. Oui. Ah oui, voilà. Oui, parce que le militaire, on a.
Le nucléaire avec le charbon, je crois que c'est un peu ça l'idée.
Oui. Alors le charbon, c'est assez dramatique. Oui.
Mais est-ce que n'est pas justement la durée des déchets nucléaires. Est-ce que c'est pas plus ça que la centrale en elle-même?
Alors, la durée des déchets, après, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a la solution simple qui consiste à les enfouir. La solution simple qui consiste à les enfouir, la nature a fait l'expérience. Ça s'appelle Oklo. Oklo, c'est la formation spontanée d'un réacteur nucléaire, d'un processus de fission entretenu sur des millions d'années, il y a 2 milliards d'années. Quand on a découvert ça, dans les années 70, on s'est évidemment intéressé à savoir où étaient passés tous les déchets, tous les produits de fission. Ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place. Donc c'est une démonstration que si le terrain est correctement choisi, on n'a pas vraiment de risque sérieux de dissémination. Alors évidemment, on ne peut pas exclure qu'il y ait un jour un géologue curieux qui aille creuser quelque part et qui tombe sur le truc qu'il ne faudrait pas. Mais c'est vraiment le type de risque. À part ça, Alors sinon, l'autre solution pour les déchets, c'est de développer des réacteurs surgénérateurs, enfin des réacteurs à neutrons rapides, et les utiliser en partie pour détruire, pour transmuter les déchets à vie longue en déchets à vie courte, qui ne poseront pas de problèmes longs.
Voilà. On a quand même pu fermer les superphéniques.
Ah ben on a. Ça c'est autre chose, la politique. Ça. C'est pas la science.
Mais les déchets nucléaires disparaissent alors que le CO2 disparaît pas.
Ah, les déchets nucléaires. Le CO2, si, il disparaît. Le CO2, il disparaît parce que la géologie est là pour nous aider. Le CO2, c'est comme ça que sa concentration a été régulée au cours des millions d'années. Le CO2, il disparaît par attaque des silicates pour le transformer en carbonate.
Voilà.
Oui.
Est-ce que ça ne serait pas plutôt une évolution culturelle dont on aurait besoin aujourd'hui? Parce que maintenant, la technique, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de progrès qui ont été faits, encore pas mal de progrès qui peuvent être faits. Est-ce que nous, on n'est pas forcément prêts à appliquer ces progrès? Ça ne serait pas forcément une évolution culturelle dont on aurait besoin?
Ah oui. Il y a beaucoup un effet de... Bon. Le progrès, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, ou si on essaye de l'empêcher à un endroit, il se fera ailleurs. Il vaut mieux qu'on en profite plutôt que d'en laisser profiter uniquement les autres. Maintenant, l'aspect culturel, je dirais que c'est plutôt un aspect propagande, un aspect des gens qui ont des convictions plus de type quasi-religieux que des convictions scientifiques, et qui les propage avec souvent la bénédiction des médias qui sont contents de publier des articles qui font vendre leurs journaux. Malheureusement.
Les médias sont souvent obscurantistes que
scientifiques. Je crois qu'il y a encore une personne, mais bon.
Si
tu rates là.
Oui.
Bon.
Bien, on arrive à... Allez, il y a encore une question, oui.
La fission.
La quoi?
La fission.
La fusion.
La fusion, pardon.
La fusion. Est-ce que tu es plus compétent que moi pour parler de la fusion? Ou Gilbert? Non. Bon, là.
Vas-y.
La fusion, c'est quelque chose dont on parle depuis les années 1950. On travaille dessus depuis les années 1950. Depuis qu'on a fait une bombache, on travaille pour essayer de domestiquer cette fusion. au début des années 70, on a trouvé le type de machine qui était susceptible d'être utilisée. C'est les tokamaks. Des machines en forme de tore, et puis maintenant il y a énormément de problèmes à résoudre pour faire fonctionner la fusion. On les résout les uns après les autres. Si on fabrique des machines plus grosses, toujours plus puissantes, c'est pour essayer de traiter les problèmes qui restent, les problèmes de stabilité du plasma, les problèmes de matériaux. Il y a un problème de matériaux qui est très important pour la fusion, c'est qu'il faut des matériaux qui puissent résister longtemps à des flux intenses de neutrons très énergiques. Et ça, je ne sais pas si maintenant on a un matériau correct ou pas. C'est pas du tout mon domaine, donc je ne veux rien garantir dans ce que je peux dire là-dessus.
Bien, on arrive donc au bout de cette séance d'information. Avant de terminer tout à fait, là, on vous rappelle qu'il y a quelques brochures que vous pouvez prendre à la sortie. Là. C'est un colloque qui s'est réuni à l'Assemblée nationale au printemps sur la transition énergétique. Donc, c'est une très bonne brochure. Je vous rappelle aussi que Jean Poitou là, a écrit un livre là, sur le climat, la Terre et les hommes. Donc il y a quelques explications.
Donc, je précise que c'est un livre qui est en principe accessible à vous tous. Il ne contient strictement aucune formule mathématique. Donc vous ne serez pas noyé par les...
C'est dommage,
mais ça faisait partie du contrat pour le faire.
Alors écoutez, on était trois associations à s'être regroupées pour faire cette conférence, alors pour faire venir Jean Poitou. Moi, je suis ravi par le nombre de questions qu'on a eues dans la salle, et surtout de la part en particulier des jeunes. Ça prouve que c'est une chance qu'on a que Carnot ouvre ses portes aux intervenants extérieurs. Et à midi, on était avec votre proviseur, il est tout à fait partant pour qu'on puisse continuer. Je remercie aussi le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bourgogne, dans la représentante et au fond de la salle, là, Claire Cierdé. Donc, c'est par son intermédiaire qu'on a pu venir dans cet établissement. Puis, avant de conclure complètement, et de remercier Jean Poitou, qu'on a fait venir de Paris, là, pour nous parler de... au départ, il y avait pas mal de formules, mais j'ai trouvé que les questions sont venues bien compléter cette conférence. Mais avant qu'il nous quitte, comme il est venu en Bourgogne, écoutez, on voudrait qu'il reparte aussi plus tard avec un souvenir des climats de Bourgogne.
Mais qui fabrique un petit peu de CO2.
Eh bien. Ouh là là.